Je vous invite à voir la parole de Dieu ce matin dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre sujet ce matin, c'est l'adoration et notre ministère l'un envers l'autre. Il y a trois versets sur ce thème que nous allons considérer aujourd'hui. Et notre premier point sera basé sur le verset 19. S'entretenir. Le texte dit « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. S'entretenir. » Ceci n'est pas seul, mais s'entretenir l'un avec l'autre. Ceci est peut-être un peu ambigu dans notre traduction anglaise. Mais ceci ne signifie pas se parler à soi-même. Vous pouvez très certainement vous parler à vous-même. Pensez à la parole, au cantique, au psaume, vous encouragez vous-même, mais ce n'est pas la signification du texte ici. Ce texte dit « Entretenez-vous l'un avec l'autre. Parlez l'un à l'autre. » Ceci est clair dans l'original grec. « Entretenez-vous ensemble. » Il est peu probable que l'apôtre Paul dit « Parlez l'un à l'autre, principalement sur des sujets qui parlent de psaumes, de cantiques et d'hymnes. » Et nous verrons le passage parallèle dans Colossiens 3. Et je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il serait bon de mettre une virgule avec ce terme « Entretenez-vous ensemble. » Virgule, ou point virgule si vous voulez, parce qu'il y a une nouvelle pensée qui vient ensuite, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. C'est là le deuxième point qui est différent, et ce serait une aide pour nous que d'avoir une virgule après « entretenez-vous ensemble ». Et je vais vous montrer pourquoi c'est important alors que nous continuons. Mais commençons par « entretenez-vous ensemble ». Ceci est si essentiel, si important dans la vie chrétienne. Non pas en premier des psaumes, des hymnes et des cantiques, même si ceci est tout à fait bon, mais dans Colossiens chapitre 3, il est dit « Parlez des Écritures, connaissez les Écritures, c'est là la base de ce que nous parlons l'un à l'autre. » Oui, nous avons l'enseignement du prédicateur, mais nous devons également nous édifier l'un l'autre. Et c'est là ce que veut dire l'apôtre Paul ici dans ce verset. Peut-être que nous pourrions lire Colossiens chapitre 3, et nous reviendrons à Éphésiens dans un moment, Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. » Et cette virgule doit être là, à nouveau. Nous nous instruisons, nous nous exhortons les uns les autres par la parole de Dieu et la sagesse qu'il nous est donnée pour la comprendre, que la parole de Christ habite abondamment en vous, comme si c'était un trésor. Apprenez la parole. Souvenez-vous de la parole. Et souvenez-vous de ces versets qui vous encouragent dans certaines circonstances dans votre vie et enrichissez-vous de cette source qui est si riche de l'Écriture pour que nous puissions nous aider l'un l'autre. Parce que l'encouragement, l'exhortation, l'instruction de toutes sortes, l'un pour l'autre, ne viendra pas de notre propre sagesse humaine, de notre raisonnement, mais ceci viendra de ma compréhension de la parole de Dieu, ses grands principes, ce qu'elle m'a enseigné, ses commandements. Et cette virgule est importante après les uns les autres. Il n'y a pas de ponctuation dans le grec original, et ce sont les traducteurs, dans ce cas-là, qui ont inséré la ponctuation, suivant le sens de l'original. Mais ici, que la parole de Christ habite abondamment en vous, c'est là le fondement. Pour le prochain point, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. D'avoir une virgule après les uns les autres, ceci est souvent présent dans les anciennes versions de l'Écriture. Dans la Bible de Genève, il y a une virgule ici. Cette version des années 1580 et d'autres traductions anciennes et la version révisée anglaise de 1904 également. Et de même, la version RSV que je ne recommande pas d'habitude est la ESV qui en est tirée. Toutes ces versions ont une virgule ici. Et la traduction littérale de Young également, et la Bible araméenne en anglais également. Que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, virgule. Vous pouvez enseigner des psaumes, des cantiques, mais l'apôtre Paul ne vous dit pas d'enseigner uniquement ces choses, non. Enseignez-vous, instruisez-vous les uns les autres en puisant dans les ressources riches de l'Écriture. C'est là le sens de ce verset. C'est là le ministère l'un envers l'autre. Il y a des règles dans notre encouragement l'un pour l'autre, notre exhortation. Est-ce que vous connaissez cette personne suffisamment? Alors vous pouvez reprendre, vous pouvez peut-être avertir une personne. Si vous voyez qu'un frère ou une sœur en Christ fait quelque chose qui leur fait du mal et qui fait du mal à d'autres. Si vous êtes un ami, alors vous pouvez venir à côté de cette personne, vous pouvez prier pour la grâce de Dieu et aider cet ami et ce croyant. Et le Seigneur peut vous utiliser. Se reprendre l'un l'autre, c'est si important. Il y a des règles cependant. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à recevoir ceci de la part d'autres personnes, à être repris? Est-ce que vous avez l'humilité de recevoir ces choses? Alors vous êtes qualifié pour reprendre les autres. Mais si vous êtes une personne hautaine, qui n'accepte pas d'être repris, alors ne reprenez jamais personne, parce que vous ne reprendrez jamais personne dans le bon état d'esprit. Vous devez être prêt à recevoir également la correction. Ce doit être un équilibre. Il y a certaines personnes qui sont spécialisées en cela et qui n'encouragent jamais. Ce n'est pas un ministère équilibré, ce n'est pas juste. Vous devez avoir un équilibre, être prêt à encourager les autres et également à reprendre, à aider et à assister les autres. Et vous devez amener des versets de l'Écriture. Vous devez être prêt à confesser votre propre faute. Peut-être vous êtes la bonne personne pour reprendre une autre personne parce que vous avez fait cette même erreur auparavant. Vous êtes allé sur ce chemin et il y a eu des conséquences graves pour vous. Vous avez été blessé, vous avez été séparé du Seigneur peut-être à cause de votre erreur et à cause de votre chute. Et vous avez dû apprendre ces choses d'une manière difficile. Alors vous êtes la bonne personne parce que vous pouvez dire « Oh, j'ai fait également cette erreur ». Et c'est là ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris. C'est ainsi que le Seigneur a œuvré dans mon cœur. Et alors, ceci sera reçu par l'autre personne parce que c'est une approche humble. Vous avez une qualification unique parce que vous avez fait la même erreur dans le passé. Et soyez prêts à employer ceci dans votre témoignage. Se reprendre l'un l'autre. Souvenez-vous de ceci. Si une personne erre dans notre famille spirituelle, peut-être que c'est de notre faute. Pourquoi? Nous n'avons pas donné de mauvais exemples, n'avons pas participé, n'avons pas provoqué, mais peut-être que nous n'avons pas repris cette personne. Et ceci est devenu de plus en plus grand dans la vie de cette personne. Et cette personne a peut-être échoué spirituellement, parce que nous avons vu ces choses, mais nous n'avons jamais rien dit. Nous n'avons jamais aidé et assisté cette personne. Ainsi, s'il n'y a pas ce ministère l'un pour l'autre, se reprendre l'un l'autre, peut-être que c'est de notre faute si quelqu'un échoue. D'où est-ce que vient cette correction l'un de l'autre? Ou peut-être qu'on pense que ceci, c'est l'œuvre des pasteurs, des diacres, des anciens, et que ceci ne doit pas venir de nous. Non, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 le ministère de tout le corps et un membre à l'autre. Et nous lisons ici, et dans Éphésiens chapitre 4, ces grands versets au verset 16, l'apôtre Paul parle ici de la sanctification de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour de Christ, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Le corps s'édifie lui-même par la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Le devoir solennel de se reprendre l'un l'autre ne pourrait pas être exprimé plus clairement que dans cette analogie ici du corps et de la manière par laquelle il fonctionne. Nous avons cette responsabilité, chers amis, et c'est expliqué dans Colossiens chapitre 3, et j'en reviens à Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous ensemble, virgule. À partir des richesses de la parole de Dieu et de l'œuvre de Dieu en vous. Et mon deuxième point, et j'en arrive, au cantique, au psaume et à ce chant dans votre cœur au Seigneur. Tout d'abord, s'entretenir l'un à l'autre, c'est quelque chose que nous faisons chacun, l'un à l'autre. À présent, chanter au Seigneur, c'est quelque chose que nous faisons tous, mais ensemble. Chantant des cantiques, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Certaines personnes pensent que ces trois termes, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, se réfèrent à trois aspects différents du livre des psaumes. Certains pensent que l'apôtre Paul utilise ces trois termes pour décrire trois parties du livre des psaumes. D'autres disent non, ces termes décrivent non pas trois aspects du livre des psaumes, mais trois types de psaumes de l'Ancien Testament. Mais la plupart des commentateurs pensent que c'est bien plus naturel dans le sens de ces termes. Ce terme « hymne » était utilisé souvent dans la littérature grecque dans son temps. Et de même, ce terme pour les cantiques spirituels qui se référaient à différentes sortes de compositions musicales. Ainsi, les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels probablement se réfèrent à ceci. Les psaumes, oui, les psaumes de l'Ancien Testament. Les hymnes de composition humaine, mais dirigés vers Dieu pour le louer lui. Même les païens, en ces jours-là, utilisaient ce terme hymne pour s'adresser à des déités, à des idoles. Ce terme hymne est probablement utilisé dans son sens naturel de ce temps-là, quelque chose qui a été composé par les êtres humains et qui est adressé à Dieu. Et des cantiques spirituels, c'est une composition humaine, mais pas adressée à Dieu. Peut-être que c'est un cantique de repentance composé par des êtres humains ou un cantique de méditation qui pense à ce que Dieu a fait pour nous ou un cantique de consécration ou de foi ou un thème particulier. C'est probablement la signification de ces trois termes. Les psaumes de l'Ancien Testament, les hymnes d'une composition humaine, mais qui louent Dieu, et les cantiques spirituels, de composition humaine sur un thème spirituel. La plupart des cantiques de John Newton, par exemple, parlent de ce que Dieu a fait en nous, notre expérience de Dieu. Et une prière par rapport à ceci, ce sont des autres thèmes, ce seraient des cantiques spirituels. Ainsi, ces trois termes recouvrent d'une manière large toutes ces choses. Mais les psaumes, que devons-nous faire avec les psaumes? Les psaumes de l'Ancien Testament. En mettant de côté le chant pour l'instant, nous lisons les psaumes dans notre méditation personnelle. Nous lisons les psaumes. Ce sont des chants d'expérience extraordinaires. Là, dans les psaumes, ce sont des exemples pour nous qui nous montrent comment louer Dieu, comment prier. Et des psaumes d'expérience, tout est là dans le livre des psaumes. L'expérience spirituelle qui est exprimée d'une manière si riche. Mais nous pouvons également chanter les psaumes. Sous quelle forme devrions-nous chanter les psaumes? Devrions-nous chanter des paraphrases écossaises? Le principe, c'est que ces paraphrases s'en tiennent précisément aux termes précis des psaumes hébreux, aussi proches que possible. Est-ce que nous devrions chanter ceci? Certains d'entre eux, oui, ont plein de significations, sont tellement beaux tels qu'ils sont. Mais beaucoup de ces psaumes, quand nous les chantons pour louer le Seigneur dans cette forme qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, sont un problème pour nous, parce que ces psaumes utilisent le langage et la théologie de l'Ancien Testament. Ainsi, ces psaumes parlent de sacrifices, parlent de l'Ancien Testament avec le langage de l'Ancien Testament. Et bien sûr, ce sont des termes de prophétie, mais qui ne mentionnent pas explicitement Christ, parce qu'il est venu après cela. À présent, nous, chrétiens, dans l'Église chrétienne, que ferons-nous avec les psaumes? Nous ne pouvons pas les chanter dans le langage de l'Ancien Testament. Nous devons les christianiser. Et quand le psalmiste de l'Ancien Testament s'exprime dans des symboles de l'Ancien Testament, nous devrions traduire ceci dans le langage du Nouveau Testament, l'accomplissement du Nouveau Testament. Nous devrions christianiser les psaumes. Dit ainsi, ceci semble surprenant, Mais c'est important. Savez-vous, dans ce pays, dans notre tradition non conformiste des cantiques, dès le début de l'Église, quand les cantiques étaient chantés, ces psaumes étaient christianisés et transformés dans un langage du Nouveau Testament. Beaucoup de gens ont fait ceci. Isaac Watts, par exemple, est bien connu. La plupart de ses cantiques, nous les chantons encore aujourd'hui, en particulier ces versions christianisées des psaumes. Et nous en avons chanté deux déjà ce matin. C'est là ce que nous devrions faire avec les psaumes. C'est là notre intention. C'est là ce que le Seigneur veut pour nous. Certains ne sont pas d'accord. Certains pensent que nous devrions chanter uniquement les psaumes sans mentionner Christ. C'est-à-dire que vous n'allez jamais mentionner le nom de Christ, n'allez jamais chanter aucune doctrine théologique du Nouveau Testament. Et le sang et la conversion, le retour de Christ, et tant de thèmes qui sont si merveilleux, et votre Église serait silencieuse sur ces choses dans son chant. Certains pensent que les cantiques, les psaumes, vous devez rigoureusement vous tenir aux paroles de l'Écriture. Et certains pensent que nous ne pouvons pas changer ceci, mais c'est important de chanter dans des termes chrétiens. J'ai mentionné ceci auparavant, mais j'aimerais rapidement lire dans Apocalypse chapitre 4 pour voir un exemple de ceci, qui est notre autorité dans l'Écriture pour faire ceci. Et au verset 8, les quatre animaux, les créatures vivantes en grec, les séraphins de justice qui représentent la justice parfaite de Dieu, les quatre animaux avaient chacun six ailes, et à l'entour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, ils voient toutes choses que nous faisons. Et il ne cessait jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. » Ceci, c'est dans Ésaïe 6. C'est une citation de l'Ancien Testament, le cantique qu'ils utilisent. Mais à partir de maintenant, tout ce qui est dit est uniquement dans le Nouveau Testament. Au verset 9, « Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce, à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens dans la vision, c'est l'Église de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament, qui adore Dieu au ciel même à présent, entre les deux venues de Christ. Et ceci est décrit ici dans ce langage symbolique, l'Église de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament. Les 12 apôtres qui représentent l'adoration sincère de Dieu dans le Nouveau Testament. Ils se prosternaient devant lui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant, ailleurs il est dit qu'ils chantaient, ici il est dit qu'ils disaient. Mais regardez ce qu'ils disaient au verset 11, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créés. » Ceci, c'est le début du grand chant d'adoration, de louange. À présent, au chapitre 5, verset 8, ceci continue ici. « Et l'agneau est entré, Christ, et il a pris le livre scellé qui représente toute l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Et quand il a pris le livre, lui seul, l'agneau de Dieu, pouvait l'ouvrir. » Et les quatre animaux, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Ceci représente toute l'adoration. Et ils chantaient un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Soulignez ce terme « nouveau ». Disant, et à présent nous voyons que c'est un cantique nouveau. Réellement, tu es digne de prendre le livre. Ce cantique est chanté pour Christ, l'agneau, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé au temps passé. Ce grand cantique, ce nouveau cantique au ciel, il chante dans le temps du passé, l'agneau qui a été immolé. Vous ne pouvez pas faire ceci dans les psaumes. Et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Ou dans les psaumes, voyez-vous, ceci est prophétisé, oui, dans un langage symbolique et plus clairement dans Ésaïe chapitre 53, mais où dans les psaumes voyez-vous ce cantique de la rédemption par le sang de Christ? et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, le salut des non-juifs. Et au verset 10, « Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu. » Où voyez-vous ceci dans les psaumes? Tous les croyants qui sont sacrificateurs devant Dieu, où voyez-vous cette doctrine du Nouveau Testament? Et nous régnerons sur la terre. Cette terre rendue belle, cette nouvelle terre reconstituée à partir de toutes les particules de destruction à la fin du monde. Et les enfants de Dieu vont régner sur cette nouvelle terre avec Christ pour l'éternité. Où est-ce que vous voyez ceci dans les psaumes? Ainsi, ils chantent des doctrines du Nouveau Testament. C'est là notre autorité, chers amis, dans l'Écriture, notre commandement. Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance. Il a été immolé au passé. Il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force et honneur et gloire et louange. » Et ce grand « Amen » et « Alléluia » dans les versets qui suivent dans ce passage. Et ceci se passe à présent. L'adoration de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament dans les cieux et sur cette terre à présent même. Tout ceci est là dans cette grande vision. Ainsi, nous devons chanter des cantiques chrétiens et des versions christianisées des psaumes. C'est pour cela que nous aimons les psaumes d'Isaac Watts. Chanter ceci est remarquable. Ceci permet à un ensemble de personnes d'adorer le Seigneur ensemble. Chanter, ceci ralentit votre pensée. Et vous pensez aux paroles, les grandes doctrines de la foi, les grands thèmes de l'Écriture. Vous lisez ces choses et votre esprit réfléchit rapidement. Vous lisez ces choses et mentalement, vous méditez plus rapidement. Mais quand vous chantez, vous êtes beaucoup plus lent. Le chant nous garde ensemble et met comme un frein pour que nous puissions réellement méditer sur ces paroles, pour que nous puissions réellement digérer, mastiquer chaque parole et y penser de la bonne manière, une parole après l'autre. Le chant nous amène à réfléchir profondément et à être sincères et à réellement penser à ce que nous chantons et à chanter au Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux que le chant. Bien sûr, de nos jours, nous savons que certains méprisent le chant. Ils prennent la musique du monde, du divertissement. Parfois, ça va lentement, mais parfois, beaucoup trop vite, et avec du rythme, etc. Et un rythme très rapide. Mais le chant traditionnel nous garde ensemble, et ceci nous permet de penser à chaque parole et de chanter de tout notre cœur. J'en reviens au texte parce que j'en arrive à mon prochain point. Chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Ceci est essentiel. En psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Quelle expression merveilleuse de l'apôtre Paul qui parle sous l'inspiration du Seigneur. Comment est-ce que je psalmodie dans mon cœur au Seigneur? Ce n'est pas essayer de repenser à une mélodie dans votre esprit en pensant au lieu de chanter, non. Ce dont il parle ici, c'est de laisser ces paroles que vous chantez, de les laisser profondément s'imprimer en vous. Ceci, c'est la sincérité, être touché par les paroles du cantique, profondément. Ainsi, vous êtes réellement reconnaissant au Seigneur, et vous êtes réellement dans la tristesse à cause de votre péché, vous êtes réellement touché par son amour si profond qu'il a amené à la croix du calvaire pour souffrir, pour mourir, pour vous. Psalmodiez de votre cœur au Seigneur. C'est un écho à ses paroles et ceci doit être présent. Chers amis, ne soyez pas ceux qui chantent uniquement par votre pensée et intellectuellement de manière distante et froide. Quelle chose terrible que de chanter ces paroles si profondes, cette théologie, ces cantiques, sans les ressentir profondément dans votre cœur, sans être touché par ces choses. L'un des grands problèmes pour beaucoup de chrétiens, c'est l'assurance. Et ils viennent vers leur pasteur, ils disent « Comment est-ce que je peux approfondir mon assurance, fortifier mon assurance pendant des semaines et des mois je ne réalise pas profondément la proximité de Christ et cette certitude en moi de sa présence avec moi. Qu'en est-il de l'adoration du Seigneur? Est-ce que vous chantez sans penser aux paroles, sans être touché, sans penser à ces paroles dans votre propre cœur, en les amenant devant le Seigneur dans votre cœur? Vous êtes devenu quelqu'un qui adore le Seigneur avec un cœur froid et dur. Et ceci est triste. L'apôtre Paul nous parle de ces choses. Chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, dans votre cœur. Ce n'est pas suffisant que de chanter d'une voix forte. Si nous étions une église anglicane, en particulier certains mouvements de l'église anglicane, nous demanderions à l'organiste de jouer tous les cantiques par rapport à la croix du calvaire, par rapport à Christ, comme si nous étions dans le chagrin, dans la tristesse. Et si possible, d'une manière lente, avec l'émotion. Et ceci est complètement faux. Ceci n'est pas approprié. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Christ n'est pas mort. Et nous ne sommes pas dans le chagrin. Il est ressuscité. Il est notre Seigneur ressuscité, vivant. Ainsi, nous ne sommes jamais dans cette émotion triste quand nous chantons. Nous chantons plein de gloire, d'émerveillement, de louange pour le Seigneur, en réalisant ce qu'il a fait pour nous dans son amour si immense. Nous ne sommes jamais tristes, nous ne devrions pas. C'est simplement une parenthèse. Mes chers amis, psalmodiant de votre cœur, soyez touchés, touchés et réjouissez-vous devant le Seigneur, plein d'émerveillement, de reconnaissance, d'amour pour lui. Soyez toujours touchés. Et si vous êtes touché dans votre cœur, alors vous aurez bien moins de problèmes d'assurance. Ce sont des termes extraordinaires. Chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendez grâce toujours pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Église chrétienne, nous faisons tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons les cantiques et ses doctrines. Comme Isaac Watts le dit quand il a écrit son premier recueil de cantiques, c'est extraordinaire de penser à cela, que la plupart de ses cantiques ont été écrits quand il avait à peu près 20 ans. Le Seigneur était avec lui, c'est sans aucun doute. Cependant, comme Isaac Watts l'a dit, il utilise toujours le langage d'un chrétien. Il traduit le langage de l'Ancien Testament en un langage chrétien pour exalter Christ dans les psaumes, et c'est là le principe même de ce que nous devrions faire. Chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendez grâce toujours. Nous pourrions parler de ceci une autre fois, pour toute chose, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un cantique allemand que John Wesley a traduit, nous le chanterons dans un moment, qui a ces paroles, ce couplet: ton amour est près de moi tout le jour, jour après jour, et ma seule œuvre, mon seul but, c'est de te louer. C'est le but du chrétien que d'exalter Christ, de lui rendre gloire. C'est là ce que nous faisons quand nous chantons les cantiques.